France Musique.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans nos arabesques qui se dérouleront aujourd'hui en compagnie de Céline Parfenoff, Martine Moni, Titouan Labarre, Youtou Diego Aclopez et Olivier Dehay. Voici la troisième émission de notre série consacrée à une vie de Napoléon Bonaparte en musique. Napoléon décédé il y a 2 siècles, jour pour jour, le 5 mai 1821, sur l'île de Sainte-Hélène. Et nous allons retrouver aujourd'hui, dans la période 1805-1809, donc de Trafalgar à Wagram, avec pour commencer un Napoléon populaire qui a connu beaucoup de succès dans les années 80, c'est celui de Serge Lama.
C'est quoi? Une simple planche, planche un bout de bois, bois qu'un beau beau dimanche manche, on habillera de pourpre et d'or, et ça va de soi, d'or et de soie. Un trône, c'est quoi? Un beau bout de planche, planche un bout de bois, un arbre sans branche, branche autour duquel dansent les rois, les écus d'or et les ducats. Un trône, c'est quoi? Un beau bout de planche, planche un bout de bois, bois, quelques robes blanches, blanches qu'un peintre rendra immortel d'un coup de pinceau solennel. Un trône, c'est quoi? Un bout de planche, planche un bout de bois, bois qui donne en revanche, planche un privilège, un passe-droit pour dire merde aux autres rois. Un trône, c'est quoi? Une simple planche, planche un bout de bois, bois qu'un beau beau dimanche, planche on habillera de pourpre et d'or. Et ça va de soi, d'or et de soie. Un trône, c'est quoi? Un bout de planche, planche un bout de bois, bois, un arbre sans branche, branche autour duquel pensent les rois, les écus d'or et les ducats. Un trône, c'est quoi? Un bout de planche, planche un bout de bois, bois, quelques robes blanches, blanches qu'un peintre rendra immortel d'un coup de pinceau solennel. Un trône, c'est quoi? Un bout de planche, planche un bout de bois, bois qui donne en revanche, planche un privilège, un passe droit pour dire merde aux autres rois.
Sur une musique d'Yves Gilbert, c'est un extrait du disque du spectacle Napoléon. Serge Lama dans un trône c'est quoi, évoquant la toile de David représentant le sacre de l'empereur qu'on décrivait hier. Et il citait notamment le mot qu'aurait prononcé Cambronne à l'issue de la bataille de Waterloo. Mais nous n'en sommes pas encore là, puisque nous reprenons l'histoire de Napoléon en musique en 1805. C'est l'année de la bataille d'Austerlitz, célébrée à Paris par une gare. Mais c'est aussi celle de Trafalgar, célébrée à Londres par un square et une colonne, d'où nous contemple de son seul œil l'amiral Nelson, borgne et manchot, en anglais One-Eyed, One-Armed Nelson.
He left his eye, the starboard eye, high and dry in Corsica. We've got a one-eyed admiral, Nelson.
His missing arm, the starboard arm, came to grief in Tenerife. We've got a one-armed admiral, Nelson.
Disarmed, as you might say, 'twas just the other day, yet once again by thunder, Nelson's underway. With one eye on the French and one arm round the wench, what does he need with two? Our one-eyed, one-armed admiral of the blue.
C'était Arnick Sheldon qui chantait ce Nelson, accompagné au piano par Jerry Bock en 1967 pour un projet de comédie musicale intitulé Trafalgar, et puis qui finalement ne verra pas le jour. Mais il fallait, pour évoquer cette année 1805, faire un clin d'œil, c'est qu'elle le dire, à ce fameux Nelson et à cette bataille de Trafalgar, la plus grande victoire navale des Britanniques contre la France. La ville de Vienne est occupée par les Français. Nous l'évoquons hier avec le pauvre Beethoven qui voit le bide total de la création de son opéra Fidelio. Et c'est à Vienne qu'est signé un traité qui redessine la carte d'Europe centrale. Tandis que le 26 décembre 1805, le traité de Presbourg, actuel Bratislava en Slovaquie, scelle la disparition du Saint-Empire romain germanique. D'ailleurs, c'est un natif de Presbourg, au bord du Danube, qui va célébrer en musique la paix provisoirement signée. Il s'agit du compositeur Johann Nepomuk Hummel, successeur de Haydn à la cour des Esterházy, et qui écrit un Te Deum pour la célébration de cette paix. C'était un extrait du Tédéum de Johann Nepomuk Hummel, enregistré à Bratislava, ancienne Presbourg, par le chœur Aléa et l'ensemble Solamente Naturali, pour évoquer ce traité de Presbourg de 1805. Alors parmi les grandes batailles remportées par Napoléon après Austerlitz, il y a Iéna, le 14 octobre 1806. Et là encore, cela nous rappelle à quel point la géographie parisienne est tissée de noms napoléoniens, entourée par les boulevards des Maréchaux, avec la gare d'Austerlitz, le pont d'Iéna, l'Arc de Triomphe, la colonne Vendôme, la rue de Rivoli, les avenues de Wagram, de la Grande Armée, etc., etc. Donc c'est entre Weimar et Leipzig, à Iéna, en Thuringe, que Napoléon et ses hommes l'emportent sur les armées prussiennes et saxonnes, tandis que le philosophe Hegel écrit à l'université d'Iéna sa phénoménologie de l'esprit et il contemple Napoléon dominant le monde sur son cheval. Une bataille évoquée par Balzac dans Une ténébreuse affaire, mais aussi par cet obscur compositeur Jean-Frédéric Auguste Lemierre de Corvée dans une partition pour piano qui décrit cette bataille, la bataille d'Iéna, dont voici la fanfare. C'est Daniel Proper qu'on entendait dans l'une de ses partitions napoléoniennes, en l'occurrence la bataille de Iéna. Iéna qui, selon Hegel, marque d'une certaine façon la fin de l'histoire. Musique, musiquette, pourront dire, de Jean-Frédéric Auguste Lemierre de Corvée. Les militaires potaches ajouteraient deux corvées de toilettes. Bon, pardon. Voilà encore une de ces œuvres mineures, décoratives et très anecdotiques, mais dont les salons de l'Empire étaient friands pour revivre en musique ces grandes batailles. Oui, mais confortablement installé dans une bergère empire.
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
En cette année 1806, Étienne Méhul présentait à l'Opéra Comique Uthal, U-T-H-A-L, sur un livret inspiré des poèmes de James Macpherson, alias Ossian. Macpherson, poète écossais, avait prétendu retrouver ces textes d'un barde antique appelé Ossian, des textes qui ont eu énormément de succès en Europe à la fin du 18e, début 20e, début 19e, jusqu'à ce qu'on découvre que ce Macpherson les avait en fait écrits lui-même et inventés lui-même. Napoléon était très friand de ces histoires brumeuses. Les peintres de son époque s'en sont donnés à cœur joie. De Gérard, avec Ossian, évoque les fantômes au son de la harpe, jusqu'à Ingres, dans le Songe d'Ossian, en passant par Girodet, avec Ossian reçoit les héros français morts pour la patrie. Ossian est également une source d'inspiration à l'opéra, avec Ossian ou les Bardes de Le Sueur, qui sera à l'affiche de 1804 à 1817, grand succès de cette période, ou encore ce Uthal de Méhul, qui a la particularité d'être écrit sans aucun violon, que des altos, des violoncelles et des contrebasses parmi les cordes.
Oh! ou chercher un appui dans ma douleur amère. Ces enfants de Morvan, on les dit généreux. Ils dorment. Si l'un d'eux, rêveur et solitaire, veillait, se rappelant une épouse, un vieux père, un tel héros serait touché de ma prière. Il pourrait... Oh, cherchons. D'un pied silencieux parcourons de ces bois la profondeur sauvage. Amour et piété, soutenez mon courage.
Je la cherche en vain. Dans ma course rapide, j'ai parcouru les monts, les forêts, les déserts. Où la trouver? Malvina, la perfide. Et cependant, je meurs si je la perds. Respirons un moment. La fatigue m'accable. Quel tourment j'ai souffert dans cette horrible nuit. J'ai joui d'un bonheur peu durable. Un seul instant a tout détruit. Tel que l'on voit parmi ces timides compagnes, chaque jour son bel embellit. J'étais heureux par sa tendresse, sa harpe chantait mes exploits. Avec ivresse contempler la fille des rois, contempler la fille des rois pour appris chassé, et ton nom, Palais,
Christophe Rousset dirigeait les talents lyriques dans cet extrait de l'opéra Utal d'Étienne Méhul, d'après Ossian Macpherson. On entendait le ténor à l'instant Yann Beuron dans le rôle titre de Utal et Karine Dehaye dans le rôle de Malvina. Voyons maintenant quelle politique musicale l'empereur des Français entend mener en France, avant tout à Paris, centralisation oblige. En 1795, le Conservatoire de Paris avait été fondé par la Convention, formant d'excellents instrumentistes, dirigés par François Abenec, qui va faire découvrir aux Français, aux Parisiens, les symphonies de Beethoven. Il y a la chapelle impériale, la musique particulière de l'empereur, aux Tuileries, à Fontainebleau. Mais le centre de la représentation musicale, c'est bien sûr l'Opéra, Académie impériale de musique depuis 1804. Napoléon va en prendre personnellement les rênes en 1807 en y établissant un règlement très strict, incluant bien sûr la censure, en écrivant au comte de Rémusat, surintendant des spectacles, « Vous ne devez mettre aucune pièce nouvelle à l'étude sans mon consentement », fin de citation, comme si Napoléon n'avait que ça à faire. Et pour cela, je cite Napoléon, « on jette l'argent par les fenêtres pour qu'il rentre par les portes ». David Chailloux évoque tout cela dans sa thèse « Napoléon et l'opéra » parue chez Fayard. Il y a aussi l'opéra comique, le théâtre français, le théâtre de l'impératrice avec comédie et opéra bouffe, la gaieté, l'ambigu comique, les variétés et enfin le vaudeville. Les sujets de l'opéra sont puisés dans la mythologie et dans les récits historiques comme le 17 février 1807 avec la création de Joseph du même Étienne-Nicolas Méhul, Joseph sur un livret d'Alexandre Duval d'après l'Ancien Testament.
Connaissance s'empresse à flatter mes désirs au milieu des honneurs de la magnificence.
C'est vous, accudo la lacrimiera son amour mosavir. Vous avez pu voir sans frémir ses pleurs, sa douleur paternelle, ingrat, je devrais vous haïr, je devrais vous haïr. Et pourtant, malgré ces alarmes, malgré cet affreux souvenir, si vous pouviez vous repentir, je serais touché de vos larmes. Si vous pouviez vous repentir, je serais touché de vos larmes. Ces alarmes, malgré cet affreux souvenir, si vous pouviez vous repentir, je serais touché de vos larmes, je serais touché de vos larmes, je
Le ténor Roberto Alagna, le Roberto Alagna, était accompagné par l'orchestre de Covent Garden dirigé par Bertrand de Billy dans cet extrait de l'opéra Joseph de Méhul, créé au théâtre Feydeau le 17 février 1807. Opéra qui sera joué à Bruxelles, à Munich, à Dresde, sous la direction de Karl Maria von Weber, qui va en faire une série de variations sur ce thème qu'on vient entendre, et puis liste une transcription. Bref, très grand succès pour ce Joseph de Méhul. Méhul qui fait partie des quatre administrateurs de l'opéra, décidant de la programmation, et comme on dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et c'est pour répliquer au Joseph de Méhul que Gaspare Spontini, compositeur établi à Paris depuis 1803, propose à son tour un opéra antiquisant avec la Vestale, créée le 15 décembre de cette année 1807 sur un livret d'Étienne de Jouy. Ce sera le plus grand succès lyrique de l'histoire de l'Empire, et même plus tard avec 213 représentations de 1807 à 1857. Napoléon, lui, préfère Ossian et les Bardes de Le Sueur, mais le public et la postérité en décidera autrement, en plébiscitant la Vestale de Spontini. Sous les traits du général romain Licinius, les spectateurs avaient évidemment remarqué l'hommage indirect à l'empereur des Français. soprano Marina Rebecca chantait l'air le plus célèbre de la Vestale Spontini, interprété par le personnage de Julia au deuxième acte, avec ici l'orchestre du théâtre Massimo de Palerme, dirigé par Radern Bignamini.
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
Napoléon a placé de nombreux membres de sa famille sur les différents trônes d'Europe. Nous citions le frère aîné Joseph, roi de Naples puis d'Espagne. Et bien voici la petite sœur Elisa, grande duchesse de Toscane, princesse de Luc et de Piombino, à qui la légende prête une secrète liaison avec le roi des violonistes, Niccolo Paganini. En tout cas, le virtuose se défoule sur sa corde grave, la corde sol, pour y jouer entièrement une sonate intitulée « Napoleone ». Sonate ici interprétée par le violoniste Massimo Quarta avec la pianiste Stefania Redealli.
Thank you.
Stefania Redaelli au piano, Massimo Quarta au violon. C'était un extrait de la sonate Napoléon de Niccolo Paganini, probable amant d'Elisa Bonaparte, la sœur de l'empereur. Napoléon n'est pas particulièrement attiré par l'opéra, mais il soutient l'institution comme un théâtre de représentation de la gloire de la France et de sa gloire. C'est aussi la grandeur du pays qu'il soutient en disant en 1810 « Je trouve mauvais qu'on donne des pièces qui fassent allusion à ma personne. Cela est inconvenant et indécent. » Fin de citation. Napoléon n'est pas Louis XIV et sa mélomanie se tourne plutôt vers le chant italien, le bel canto, la musique de Paisiello qu'on a déjà écouté. Et puis la voix du castrat Girolamo Crescentini. C'est lors des campagnes de 1805 qu'il a pu entendre ce castrat dont la voix avait également séduit Schopenhauer. Napoléon voulait faire disparaître d'Italie cette pratique barbare de la castration et en même temps il était touché aux larmes par la voix de Crescentini, comme en témoignent ses contemporains.
Porge al mio bene.
Auretta grata, brise gentille qui souffle tout autour, apporte mes soupirs à mon amour. Voilà ce que dit ce petit poème mis en musique par le castrat Girolamo Crescentini, qu'il a probablement chanté devant Napoléon. C'était Roberta Invernizzi avec le pianoforte de Francesco Caramiello. Et puisque j'évoque le goût de Bonaparte pour le chant italien, rappelons que parmi ses nombreuses maîtresses figurait Giuseppina Grassini, qu'il avait entendu chanter en 1800 à la Scala de Milan, chanter la Marseillaise notamment après la victoire de Marengo. Giuseppina Grassini qui sera non seulement sa maîtresse mais aussi première cantatrice de Sa Majesté l'Empereur, ce qui n'empêcherait pas cette Grassini de tomber plus tard dans les bras de Wellington, l'un des vainqueurs de Waterloo. Arletti dirait que son cœur était italien mais son postérieur international. Alors voici maintenant la musique qui accueillait Napoléon chaque fois qu'il entrait à l'opéra.
Thank you.
Jacqueline Sternotte, Stefano Memma, Chris Demore et Erwin Diaz étaient accompagnés par les solistes de Liège, dirigés par Emmanuel Koch, dans un quatuor vocal extrait de l'opéra comique Lucile d'André Grétry, créé à Paris en janvier 1769, c'est-à-dire 7 mois avant la naissance de Napoléon Bonaparte. Un quatuor qui sera cité par Henri Vieuxtemps dans son 5e concerto pour violon et dont César Franck a fait une transcription pour piano à 4 mains. Alors, outre cette année 1769, quel rapport entre cette musique de Grétry et l'empire de Napoléon Ier? Eh bien, comme je le disais, c'est cette musique que Napoléon entendait chaque fois qu'il entrait dans sa loge, à l'opéra, à l'Académie impériale de musique. Où peut-on être mieux qu'au sein de sa famille, entendu au bras de Joséphine de Beauharnais, et puis à partir de 1810, au bras de Marie-Louise. En juillet 1807, le traité de Tilsit est signé avec la Russie et la Prusse. L'entrevue d'Erfurt renouvelle ensuite l'alliance avec le tsar et la Grande Armée fait un retour triomphal à Paris. Aussitôt, des places gratuites sont offertes aux soldats à l'opéra. La musique de Grétry y accueille donc Napoléon et ce vivat, écrit en 1804 pour le sacre par un certain Nicolas Rose. C'est colossal et bruyant comme une série de coups de canon sur un champ de bataille. Ce vivat de Nicolas Rose, composé en 1804 pour le sacre, eh bien, il était joué à l'opéra avant chaque représentation lorsque l'empereur était présent, ce qui n'arrivait pas si souvent que ça, vu son emploi du temps. Une anecdote savoureuse rapporte qu'un soir où l'on donnait la flûte enchantée de Mozart, ou plutôt son adaptation sous le titre Les Mystères d'Isis, l'empereur était arrivé sans crier gare au troisième acte. On a donc interrompu le divin Mozart pour le pétaradant Nicolas Rose avant de reprendre le cours de ces Mystères d'Isis, ce patchwork de la flûte enchantée, mais aussi de Clémence de Titus, des Noces de Figaro ou de Don Giovanni. Donc Mozart retransformé avec des paroles d'Étienne Morel de Chédeville, donc Mozart dans la langue de Molière, des Mystères d'Isis qui ont été enregistrés par le chœur de la radio flamande, le concert spirituel dirigé par Diego Fasolis, avec notamment le baryton Tassis Christoyanis.
Chantez, formez des pas brillants, de fleurs une simple tresse, qui a lieu des plus riches présents. La mère de la nature n'exige qu'une âme pure. Elle est la source de tout bien, sous ses lois ne craignez rien. Elle est la source de tout bien, sous ses lois ne craignez rien.
De ce qu'il est, il me ressemble, il est toujours le même. Enfin, c'est Isménor.
Isménor!
Détourne l'orage, ô trop cher instrument. Ce calme est ton ouvrage. À la ville, au village, on n'est content de rien. Pensons comme le sage qui dit que tout est bien, qui dit que tout est bien, qui dit que tout est bien. Le bonheur n'est qu'imaginaire, chacun jouit de sa chimère, chantons, célébrons pour amour. Bacchus, le plaisir et l'amour, que sous la treille, le plaisir veille, le plaisir veille.
c'est dans le flambeau de l'amour. Bâtissera les dieux du jour, bâtissera les dieux du jour, bâtissera les dieux du jour, bâtissera les dieux du jour.
Voilà deux airs de Papageno tirés de la flûte enchantée de Mozart, mais changés en Bocoris, c'est le nom de ce personnage dans la version française, l'adaptation des Mystères d'Isis, opéra pasticcio de 1801, chanté ici par Tassis Christoyanis, d'après Mozart, avec le concert spirituel dirigé par Diego Fasolis. Et au milieu, il y avait, peut-être vous l'avez reconnu, l'air du Champagne de Don Giovanni, avec Chantal Santon-Jefferi dans le rôle de Pamina, Marie Lenormand dans le rôle de Mona. Voilà comment la France a découvert Mozart, la vraie flûte enchantée. L'original de 1791 ne sera représenté à Paris qu'en 1829. Et sachez que ces Mystères d'Isis étaient encore en 1810 la partition la plus souvent donnée à Paris, près de 10 ans après la création.
Arabesque, François-Xavier Chemchak. France Musique.
Revenons à Napoléon qui, on le sait, s'est documenté, a assisté à un morceau des représentations de ces Mystères d'Isis. Alors même si Napoléon demande qu'aucune allusion ne soit faite à sa personne dans les œuvres lyriques, les héros, les dieux, les guerriers sont autant de références à son pouvoir impérial. Et l'une des œuvres emblématiques de cette ambiguïté, c'est Fernand Cortès, opéra créé en présence de l'empereur le 28 novembre 1809 sur une musique de Gaspare Spontini qui avait triomphé 2 ans plus tôt avec la Vestale qu'on écoutait tout à l'heure. L'action de Fernand Cortés se déroule au XVIe siècle dans ce Mexique aztèque conquis par les Espagnols. Et il s'agit d'une œuvre composée en plein dans ce que Jean Tullard, le grand spécialiste de Napoléon, appelle le guépier espagnol. Pour la première fois, Napoléon ne peut justifier ses batailles par la défense des idéaux révolutionnaires ou du territoire français. En Espagne, il s'agit de contrer les intérêts économiques de l'Angleterre et de remplacer les Bourbons d'Espagne par un Bonaparte, en l'occurrence le grand frère Joseph. Népotisme napoléonien qui accapare de nombreux trônes européens, et cette guerre d'Espagne sera très impopulaire des deux côtés des Pyrénées, les exactions de l'armée française étant dénoncées notamment par Goya dans ses fameux dessins et dans son fameux tableau Tres de Mayo. C'est donc dans ce contexte délétère que se déroule le 28 novembre 1809 la première de Fernand Cortés de Spontini, les mots du conquistador pouvant être pris pour des répliques de l'empereur lui-même.
Réclamer mon frère et mes amis, que Lasco dans mon camp doit rester en otage. Toi, pour mes vaisseaux, tu m'entends obéir. Tu le vois, tel Lasco, tu pensais les séduire. Cet or qu'à leurs yeux tu fais luire, un moment ébranla leur foi. Mais l'honneur parmi nous parle plus haut que toi. Je vois tous les dangers que ta bouche m'annonce. Telasco, voici ma réponse. Cette terre est à moi, je ne la quitte plus. Les conseils menaçants que ta fierté me donne pour m'éloigner sont des vœux superflus. Tu dis que la mort m'environne, qu'à peine l'océan m'ouvre encore des chemins, que cette flotte est mon dernier asile. Telasco, voici les fossiles de m'arrêter par des obstacles vains. Et si jamais Cortés renonce à ses desseins, regarde.
Thank you.
choix. Suivez-moi à Castilla, en marche et tout permissible. Cortés va vous conduire à des succès nouveaux. Cortés va vous conduire à des
cette malheureuse guerre d'Espagne a été une véritable plaie, la cause première des malheurs de la France. C'est ce que Napoléon avouera à Las Casas pendant son exil à Sainte-Hélène. Napoléon qui, pour la première fois, a vu en Espagne ses soldats refusant d'avancer en décembre 1808. Et un an plus tard, on lui montre à l'opéra un Espagnol, Fernand Cortés, victorieux des Aztèques, dans une mise en scène grandiose avec 14 chevaux galopant sur la scène de l'opéra au milieu de dizaines de figurants. Cortés ici chanté par le ténor Melena Maras avec l'orchestre et les chœurs de la Philharmonie Slovaque dirigée par Jean-Paul Penin. Voilà donc un opéra créé le 28 novembre 1809. Un mois après la paix de Schönbrunn, mettant un terme à la 5e coalition contre Napoléon, après la défaite autrichienne à Wagram, les canonnades vont enfin cesser d'assourdir les Viennois, en particulier Beethoven, déjà atteint de surdité et qui protège ses oreilles par des coussins. Nous y reviendrons demain avec l'Empereur, le fameux 5e concerto. Comme nous avions commencé cette émission par une chanson napoléonienne de Serge Lama, finissons en chanson avec une figure incontournable de l'épopée napoléonienne, c'est le grognard, grenadier ou chasseur de la vieille garde avec moustache obligatoire en forme de pistolet, deux tresses derrière la nuque, un anneau d'or à chaque oreille. Les grognards sont représentés notamment sur un dessin d'Auguste Raffet au titre éloquent. Il grognait et le suivait toujours. Des grognards chantés en 1957 par Édith Piaf, texte Pierre Delanoë, musique Hubert Giraud.
Écoute, peuple de Paris. Tu n'as pas la fièvre. Écoute ces pas qui marchent dans la nuit, qui s'approchent de ton rêve. Tu vois des ombres qui forment une fresque gigantesque accrochée dans ton ciel. Écoute, peuple de Paris. Regarde, peuple de Paris, ces ombres éternelles qui défilent en chantant sous ton ciel. Nous, les grognards, les grenadiers, sans grenades, sans fusils ni souliers, sans ennemis et sans armée, on s'ennuie dans la nuit du passé. Nous, les grognards, les grenadiers, sans grenades, sans fusils ni souliers, ce soir nous allons défiler au milieu de
vos Champs-Élysées. Bagarre à Miena, hello, à Colmar, à Go, ça sonne bien. Quelle jolie bataille, tout ce travail, c'était pas pour rien. Puisque les noms de rues, les noms d'avenues, où vous marchez, c'est avec le sang de nos 20 ans qu'on les a gravés. Nous, les grenards, les grenadiers, sans grenades, sans fusils, ni souliers, sans ennemis et sans armée, on s'ennuie dans la nuit du passé. Nous, les grenards, les grenadiers, on est morts sur des champs étrangers. On a visité la Russie, mais jamais nous n'avons vu Paris. On n'a pas eu le temps d'avoir un printemps qui nous sourit. Nos pauvres amours diraient un jour au revoir et merci. Les grenadiers, on nous a oubliés, oubliés. Depuis le temps de nos combats, il y a eu tant et tant de soldats. Mais cette nuit, vous nous verrez sans grenades, sans fusils, ni souliers. Défiler au pas cadencé au milieu de vos Champs-Élysées, sans grenades, sans fusils et ni souliers.
Une jambe de bois qui cherchait un amateur. Elle se dit, ma foi, si personne ne veut de moi, je me fous une balle en plein cœur. Et voilà que soudain, elle entend au loin une sonnerie de clairon. Elle se dit, parfait, c'est le moment ou jamais de me trouver une situation. Arrivée sur le champ de bataille, au plus fort de la mitraille, elle croise un boulet de canon qui sifflait à plein poumon. Elle lui dit, mon pote, ta petite gueule me botte, toi qui vas tuer les Cosaques. Sois donc un amour, fais pour moi un petit détour avant de partir à l'attaque. Mais voilà le hic, j'aime pas les moujiques, et si tu veux m'arranger, tourne plutôt Kazakh, passe du côté des Cosaques, vise-moi cet officier français. Si tu lui fauches une guipole, tu peux me croire sur parole, que si la gangrène s'y met pas, je serai sa jambe de bois. C'est bien délicat ce que tu me demandes là, répondit le boulet de canon. T'as une tête de bois, c'est pour ça que tu comprends pas que c'est de la haute trahison. Mais va te frappe pas, ne fais pas cette gueule-là, allons n'est plus d'amertume. Que ne ferait-on pas pour une jolie jambe de bois, je veux lui voler dans les plumes. Et le voilà qui s'élance, mais pour comble de malchance, l'officier qui vient de le voir se baisse et le prend en pleine poire. Espèce de crétin, ça c'est pas malin, s'écria la jambe de bois. Maintenant qu'il est mort, il n'a plus besoin de support, j'ai eu tort de compter sur toi. Tu me prends pour un con, dit le boulet de canon, mais moi je vais bien te posséder. La colère le saoule, et le v'là qui perd la boule, il s'en va tout dégoisé. Ils passèrent en cour martial, et pour sauver la morale, la petite fut condamnée à avoir le boulet au pied. Mais c'est que ça me fait une belle jambe de te voir toujours dans ma jambe, s'écria la jambe de bois. Pourvu que ça dure, je touche du bois.
« 1959, La Jambe de Bois, paroles, musique et chants de Serge Gainsbourg, qui avait sous-titré cette chanson La bataille de Friedland, bataille qui s'est déroulée, Lionel Esparza le sait parfaitement bien, le 14 juin 1807,
ah oui,
face aux armées russes, face aux Moujiks, oh, évoquées par Gainsbourg. Et voici donc Lionel Esparza sur France Moujik.
Sacré François-Xavier, vous aviez gardé Gainsbourg pour la fin, hein, c'était pour la faire, vous êtes malin vous.
Bah voilà.
Bon, demain, qu'est-ce qui se passe avec Napoléon?
Musique du XXe siècle avec la musique d'Arthur Honegger pour le Napoléon d'Abel Gance, Ari Anoche de Zoltan Kodály, Guerre et Paix de Prokofiev. Et puis chez vous, il sera question de récompense, je crois.
Ah,
de médailles,
oui,
de décorations.
De décorations, mais oui, comme on a fait pendant l'Empire. C'est l'Empire du Livre aujourd'hui. Le prix du livre France Musique, Claude Samuel, qui sera remis ce soir officiellement. Et on va recevoir tous les lauréats dans Relax. À demain, François-Xavier.
À demain.
À réécouter sur francemusique.fr.